Laudetur Jesus Christus.
Accélération diplomatique autour de la guerre en Ukraine. Après la conversation de 3 heures entre l'envoyé américain et le président russe hier à Moscou, les attentes se font pressantes à Kiev. Nous irons sur place. Un nouveau président pour le Conseil haïtien de transition, mais pas de perspective de sortie de crise. L'île des Caraïbes ne sort pas de son enfer sécuritaire. 9 personnes encore kidnappées cette semaine. Monseigneur Désinor témoigne. La résurgence d'un conflit frontalier en Amazonie, Pérou et Colombie se disputent une île, fragilisant la population autochtone. Et tandis que les cas de blasphème explosent au Pakistan, qui a introduit une loi décriée très stricte en la matière, plusieurs tentatives judiciaires pour la faire évoluer ont échoué. Nous faisons le point dans notre dossier sur cette législation qui persécute entre autres les chrétiens.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Donald Trump entend rencontrer Vladimir Poutine dès la semaine prochaine avant de se réunir à Troyes avec Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a fait savoir le président américain à plusieurs dirigeants européens lors d'un appel commun. Ces déclarations interviennent après l'entretien de 3 heures entre l'envoyé spécial Steve Witkoff et le président russe hier à Moscou, qualifié de productif par le locataire de la Maison Blanche. Une rencontre suivie de près à Kiev, comme nous le raconte notre correspondante sur place, Emmanuel Chaz.
Côté ukrainien, on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur les prétentions russes quant à l'issue de la guerre et la ligne de défense de Kiev reste claire, comme l'a énoncé Volodymyr Zelensky lors de son allocution quotidienne depuis la ligne de front de Soumy, d'où il commémorait le premier anniversaire de l'incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk, que le président ukrainien a résumé sa conversation avec son homologue américain Donald Trump et les alliés européens de Kiev. Il a rappelé la position claire et conjointe de l'Ukraine et de ses alliés quant à la nécessité de voir la guerre se terminer, mais aussi que cela devait être fait de manière honnête, a-t-il dit, allusion aux attaques russes sans relâche contre des infrastructures civiles, notamment malgré la pression internationale sur Moscou. Volodymyr Zelensky rappelle également que pour l'Ukraine, il s'agit de défendre son indépendance et en cela sa survie, et que la guerre a été commencée de façon unilatérale par la Russie. Ces déclarations interviennent alors que, selon le New York Times, Donald Trump prévoirait de rencontrer très rapidement Vladimir Poutine, puis d'organiser une rencontre entre ce dernier et Volodymyr Zelensky. Jusqu'à présent, Moscou a refusé toute rencontre directe entre les dirigeants russes et ukrainiens. Kiev, Emmanuel Chaz, RFI pour Radio Vatican.
Jour J pour les nouveaux droits de douane américains. Ils entrent en vigueur ce jeudi pour des dizaines de pays. Des milliards de dollars affluent aux États-Unis, se réjouit le président Trump. Ces surtaxes remplacent celles de 10% appliquées depuis avril sur quasiment tous les produits entrant aux États-Unis. Elles se situent dans une large fourchette comprise entre 15% et 41%. L'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud sont désormais concernés par un taux d'au moins 15%. Rare exception, le Mexique échappe aux nouvelles hausses contrairement au Canada, au Brésil ou à l'Inde particulièrement visés. L'enfer se poursuit en Haïti. Toujours pas de nouvelles des 9 personnes enlevées dimanche dans l'orphelinat Sainte-Hélène. Parmi les victimes, une missionnaire laïque irlandaise et un enfant handicapé. Face à cette insécurité et à la violence des gangs qui fragilisent le pays, les autorités peinent à trouver des solutions, regrette Monseigneur Jean Désinor, évêque de Hinche.
Dimanche, tôt dans la matinée, les bandits qui occupent pratiquement cette zone à l'est de la capitale ont fait irruption dans l'orphelinat et ils ont emmené 8 personnes, dont un enfant de 3 ans. Il paraît que l'enfant est handicapé et puis une des responsables qui est une étrangère. Irlandaise. Ils ont enlevé toutes ces personnes et on n'a aucune nouvelle jusqu'à présent. La dernière information, c'est une prise de position de cette organisation, nos petits frères et sœurs et la Fondation Saint-Luc, et qui ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à ce que ces personnes soient libérées. La violence gagne du terrain de jour en jour. Et les responsables de l'État, ils semblent être dépassés par la situation. Et parfois, ils communiquent même pas sur des cas d'enlèvement ou sur des cas d'assassinat ou sur des tueries de masse. Je pense que les responsables politiques, il faut qu'ils acceptent aussi de consentir les sacrifices qu'il faut pour arriver à restaurer la paix dans le pays.
Propos recueillis par Myriam Sandouno. Haïti, où un nouveau président a pris la tête du conseil présidentiel de transition qui change tous les 5 mois. Laurent Saint-Cyr devra tenter de ramener le calme. Un avion émirati détruit par l'armée au Soudan. À son bord, 40 mercenaires colombiens tués, rapporte la télévision d'État. Les faits se sont produits dans un aéroport contrôlé par les paramilitaires au Darfour. L'armée soudanaise accuse depuis longtemps les Émirats de fournir aux paramilitaires des armes de pointe, notamment des drones. Abu Dhabi réfute en bloc malgré plusieurs rapports d'experts onusiens. Le Soudan du Sud voisin pleure 10 morts près de Djouba et le vol de milliers de vaches. Depuis décembre, des faits similaires ont fait des centaines de morts. Et les affrontements pour l'accès aux ressources en eau et en pâturage ou les vols de bétail y sont fréquents. Mardi, Médecins sans frontières a même annoncé à suspendre pour au moins 6 semaines ses activités dans un des états du sud du pays où ce vol de bétail sanglant a précisément eu lieu. La jeunesse chrétienne au Niger reste-t-elle accrochée à l'espérance malgré les attaques terroristes qui continuent d'endeuiller les familles? Dans ce contexte d'insécurité grandissante, les chrétiens sont parfois persécutés, comme en témoigne la Nigérienne Andrea Spatengo. Elle est venue à Rome dans le cadre du Jubilé des jeunes et a pu saluer le pape après l'audience générale ce mercredi.
Actuellement, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de terrorisme, il y a beaucoup de persécutions sur la croyance chrétienne, ce qui fait que les jeunes préfèrent, ce que je vois, les jeunes préfèrent cacher leur croyance chrétienne et s'adonner aux pratiques musulmanes de peur d'être tués. C'est un peu difficile parce qu'on est oppressé par les personnes puisqu'ils veulent coûte que coûte nous convertir à l'islam. Mais il faut le dire aussi que même si on est une petite quantité de chrétiens, on arrive quand même à s'entraider, à être soudés dans la croyance. Et puis, il y a beaucoup d'encadrement, surtout de nos pères, de nos prêtres, sur les différentes paroisses au Niger. Le message que j'aimerais adresser à la jeunesse, c'est que c'est bien de vouloir aller ailleurs se chercher, mais il ne faut pas oublier que dans le pays dans lequel on est, si tout le monde, toute la jeunesse quitte, mais qui va rester soutenir le pays? Il faut beaucoup prier et se dire que tant qu'il y a l'espoir, l'espérance, tout ira bien. Il faut juste persévérer. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'on ne trouve pas d'issue, mais il faut avoir de l'espoir parce que l'espoir fait vivre.
Des propos recueillis par Jean-Paul Camba. Prière également en France où le département de l'Aude continue d'être ravagé par les flammes. Le plus gros incendie qu'ait connu le pays depuis 20 ans. L'évêque de Narbonne et Carcassonne, Monseigneur Bruno Valentin, exhorte à l'espérance en ces sombres heures à lutter dans la prière et à demeurer dans la solidarité active. Au cœur de l'Amazonie, pas de flammes, mais la résurgence de tensions frontalières entre la Colombie et le Pérou. En cause, une île que Bogota accuse Lima de s'être tout simplement appropriée. Le gouvernement colombien parle d'un geste unilatéral qui inquiète les populations locales. À Bogota, Camille Bouju.
C'est une petite île située dans le fleuve Amazon du nom de Santa Rosa. Ce banc de sable qui fait face à Leticia, ville colombienne, s'est formé après 1929 et le partage officiel de la triple frontière entre la Colombie, le Pérou et le Brésil. Problème, le Pérou y a récemment installé un poste de contrôle et hissé son drapeau, rompant ainsi un processus de dialogue engagé avec la Colombie à ce sujet. Bogota crie à l'appropriation illégale. Depuis des années, la Colombie soutient la nécessité d'un travail binational pour l'attribution des îles et a réitéré sa position selon laquelle l'île de Santa Rosa n'avait pas été attribuée au Pérou. Au-delà du différend diplomatique, c'est toute une population riveraine qui se sent menacée. Accès bloqué, commerce perturbé, navigation restreinte. Le Pérou, lui, campe sur ses positions et affirme respecter les accords existants. Une querelle de frontières dans une région où les communautés indigènes, déjà fragilisées, craignent d'être une fois de plus les oubliés du dialogue. Bogota, Camille Bouju pour Radio Vatican.
Et l'une des capitales historiques du bassin amazonien change d'archevêque au Brésil dans la ville de Belém qui accueillera la COP30 de l'ONU en fin d'année. Monseigneur Julio Endy Akamine prend la tête du diocèse. Il est le premier évêque brésilien d'origine japonaise du pays. Le Brésil abrite la plus grande communauté japonaise au monde en dehors du Japon. Le Japon où le déclin de la population atteint des records en 2024, diminuant selon les dernières données de plus de 900 000 personnes. Et puis en Chine, l'heure est à la diète bureaucratique. Les fonctionnaires sont invités par le régime communiste à réduire le nombre de réunions et la durée de leurs discours. Une circulaire officielle indique aussi la limitation de documents à 5 000 mots. La loi sur le blasphème au Pakistan continue de susciter les passions. Les condamnations par la justice de musulmans, de chrétiens ou d'autres membres de minorités religieuses se poursuivent et les accusations, elles, se multiplient. Un rapport de la police du Pendjab de janvier 2024 pointait déjà du doigt un véritable commerce de ces accusations. C'est pour cette raison qu'un juge de la Haute Cour d'Islamabad avait ordonné le 15 juillet au gouvernement d'instituer une commission d'enquête spéciale. Mais 10 jours plus tard, revirement, la même Cour de justice suspend cette injonction, laissant les partisans d'une réforme consternés par cette reculade. Il n'y aura donc pas dans l'immédiat d'enquête nationale sur la question, ce qui illustre la difficulté de faire évoluer la législation sur ce sujet épineux. Alors pourquoi les cas de blasphème, principalement en ligne sur Internet, se multiplient ces dernières années? Et qu'est-ce que ces soubresauts judiciaires révèlent de la société pakistanaise? La réponse de Jean-Luc Racine, chercheur émérite au CNRS.
Cette hausse correspond à un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, mais qui n'est pas tout à fait nouveau, qui est celui de l'instrumentalisation de la loi sur le blasphème. C'est ce que un rapport de la police du Punjab a appelé de façon significative le blasphème business, c'est-à-dire une espèce d'escroquerie à l'accusation de blasphème, mais qui n'est pas simplement une manière de persécution des minorités. Il faut rappeler que la plupart des victimes d'accusations de blasphème sont des musulmans, et ce qui semble sortir des rapports officiels et ce qui légitime la prise de position de la Haute Cour d'Islamabad, c'est l'instrumentalisation de la loi sur le blasphème serait liée à un réseau lui-même affilié à une organisation islamiste extrémiste qui s'appelle le Tehreek-e-Laibek Pakistan. On pourrait le traduire par le mouvement pakistanais « Je suis là ». Le « Je suis là » traduit une volonté de vigilance qui ferait plutôt appel, évidemment, à un usage délibérément religieux de la notion de blasphème. Or là, derrière des accusations de blasphème, il y aurait toute une stratégie intéressée de s'attaquer à des personnes en situation plutôt faible et, en les accusant de blasphème, de les affaiblir davantage et de mettre la main sur les terrains qu'ils occupent.
Tehreek-e-Laibek, quel est son objectif?
Ce mouvement Tehreek-e-Laibek, un de ces mouvements qui considère que la République islamique du Pakistan n'est pas suffisamment islamique par rapport aux normes. Ce mouvement, il y a quelques années, est entré dans le jeu politique. Il a eu quelques élus, bon, ça n'a pas changé la face des choses, mais il a cherché aussi à se politiser, mais surtout, il joue plutôt la carte des pressions sur les juges, des réseaux pour imposer son point de vue ou en tout cas permettre de protéger les auteurs d'actes illégaux au nom de la lutte contre le blasphème. Donc ça reste important.
D'autant que les islamistes vont au-delà des pressions.
Oui, oui. Beaucoup ont péri sous cette accusation de blasphème ou sur l'accusation de vouloir modifier la loi sur le blasphème. Dans les 10 dernières années, on estime qu'il y a à peu près une centaine de personnes qui ont été tuées donc, par des groupes extrémistes. Il y a aussi des accusés qui ont passé des années et des années en prison. Le cas le plus célèbre étant celui de la chrétienne Asia Bibi. En 2011, le gouverneur de la province du Punjab a été tué par son propre garde du corps pour avoir appelé à la réforme de la loi sur le blasphème.
Ce phénomène est-il renforcé par l'usage des réseaux sociaux?
Bien sûr, on n'échappe plus aux réseaux sociaux. Et comme toujours avec les réseaux sociaux, on croit ce qu'on veut croire. Les modalités d'accusation de blasphème, et en particulier de fausses accusations, sont intensifiées par les réseaux sociaux, parce que ceux qui sont derrière tout ça n'ont pas de mal à mobiliser les acteurs illégaux. Mais évidemment, utiliser les réseaux sociaux, ça cherche aussi à élargir un consensus sur cette question de l'extrême sensibilité de ce qui apparaît être, à raison ou à tort, la diffamation du prophète, qui reste donc quelque chose de central et sur la question du blasphème et d'une certaine façon sur l'identité pakistanaise.
Interrogé par Xavier Sartre, le chercheur Jean-Luc Racine, émérite au CNRS et spécialiste du Pakistan, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre fidélité. Rendez-vous à 13h sur les ondes de Radio Vatican pour une nouvelle édition. Très belle journée.